Bonjour à tous. Ok, nickel. Alors, comme c'est écrit en petit sur la diapositive, aujourd'hui je vais parler d'étoiles. Donc, un message un peu différent du dernier que j'ai réalisé la dernière fois. Cette fois-ci, j'aimerais plutôt être dans un message sur l'émerveillement et aussi quelques aspects de la gloire de Dieu. Et en parlant d'étoiles et de lumière, ça tombe bien avec la période de Noël d'ailleurs. Donc voilà. Suivante. Donc, ma réflexion a en fait commencé lorsque je lisais quelques textes prophétiques, notamment, encore une fois, Rick Joyner, où en fait, il y avait un texte où Jésus s'adressait à lui et terminait en disant « Ma vérité et ma bonté prévaudront pour l'éternité, et il en est de même pour ceux qui viennent à moi par amour de la vérité, ils brilleront comme les étoiles qui ont été créées en leur honneur. » Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais je vais être dans l'optique d'éprouver chaque texte prophétique que je lis, quand même, et de voir ça avec la parole, avec Dieu, etc. Et je me suis demandé s'il y avait vraiment un fondement sur le fait qu'on brillerait comme des étoiles. Je trouvais ça quand même assez particulier en soi, en fait. Donc, je suis allé un peu chercher dans la Bible, et effectivement, à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait vraiment cette promesse dans Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et pour moi qui est enseignant en SVT, briller comme des étoiles, c'est clairement pas anodin en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente réellement. On voit souvent un côté poétique à ça, mais je voulais justement aller plus en détail là-dessus pour montrer qu'est-ce que ça représente réellement une étoile en réalité. Donc je vous préviens que ce matin, ce sera un petit peu à moitié cours en SVT, des formations professionnelles, mais quand même, ce sera avec joie. Et effectivement, je voulais encore rajouter quelques versets. Dans Job, il est dit « Interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils t'apprendront, et parle à la terre, elle t'instruira. » Et encore dans les psaumes, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, etc. » Et je voulais citer ces versets pour dire que dans ce message, je vais faire un parallèle entre nous et les étoiles à chaque fois. Et je voulais juste montrer qu'on pouvait apprendre beaucoup de choses en étudiant les étoiles, beaucoup de choses que sur la nature de Dieu et sur ce que Dieu veut. Sur comment Dieu nous voit plutôt, en fait. Continue. Bien. Alors, forcément, comme en cours. Premièrement, la définition d'une étoile. Eh bien, en fait, une étoile, c'est une boule de gaz en fusion. Donc, ça peut paraître un peu bizarre, mais littéralement, en fait, c'est une quantité phénoménale de gaz qui, sous l'effet de la gravité, va rentrer en fusion. Et quand je parle de fusion nucléaire, c'est une réaction extrêmement puissante en fait. Une réaction énergétique, chimique, qui est bien plus puissante que la fission nucléaire. Alors ça vous parle peut-être pas comme ça, mais la fission nucléaire, c'est ce qu'on retrouve dans la bombe atomique par exemple, ou des réacteurs nucléaires, etc. Et bien dites-vous que la fusion nucléaire est bien bien plus puissante que ça. Et elle n'est actuellement réalisable que dans des étoiles. Aujourd'hui, les scientifiques essayent de réaliser de la fusion froide sur Terre, mais actuellement, certains disent « ouais, on a réussi ». En réalité, c'est un peu discutable et on n'est encore pas très avancé de ce côté-là. Et en même temps, pour cause, il faut essayer d'atteindre au moins 10 millions de degrés pour espérer de faire de la fusion nucléaire. Mais c'est quelque chose qui libère énormément d'énergie et de lumière. Donc une étoile, déjà, c'est un énorme réacteur qui va générer énormément de chaleur et de lumière, et rien que ça, c'est déjà assez fascinant. Continue. Donc par rapport à la taille des étoiles, vous avez sûrement déjà un peu entendu parler de ça et je ne vais pas trop m'attarder dessus. Déjà, ça c'est notre Soleil en fait, comparé aux planètes du système solaire. Donc la Terre, elle est en...
Tout petit. Juste ici.
Alors le petit point qui est juste au bout des pointillés ici. Là. Donc, le Soleil, qui est une étoile moyenne en fait, fait déjà... Alors, il faut que je revoie mes notes. J'ai plus le chiffre. Mais si, voilà. C'est 109 fois plus grand que la Terre en termes de diamètre et 1,3 million de fois plus grand en termes de volume. Donc c'est déjà quelque chose de plutôt grand en soi. Mais ça, c'est pas grand-chose encore. On peut continuer. En réalité... Je ne sais pas si on le lit très bien. Tout à gauche, vous avez en rouge écrit Soleil. Et le Soleil n'est qu'une étoile moyenne. Et en fait, elle est très petite si on la compare à d'autres étoiles qui existent dans le ciel. On peut prendre le cas de Arcturus, par exemple, qui est aussi une étoile qui fait il faut que je redise le chiffre, qui fait actuellement 25 fois le diamètre du Soleil. Et on peut prendre encore les plus grandes étoiles des géantes rouges, comme Betelgeuse et Antares, qui, elles, vont faire jusqu'à 750 fois le diamètre du Soleil. Mais ce n'est pas encore les plus grandes, parce que j'ai pas trouvé d'image. Mais actuellement, l'étoile qui détient le record, c'est Stephenson 2.18, un nom pareil, dont le rayon est 2150 fois plus grand que celui du Soleil. C'est vraiment des dimensions qu'il est extrêmement difficile de concevoir en tant qu'humain. Mais c'est juste pour vous dire que déjà, un premier indice, quand Dieu nous promet de briller comme des étoiles, c'est pas briller comme une petite lampe de poche et « Ah, c'est cool, comme ça la nuit, j'ai pas peur du noir ». Non, c'est... Il y a quelque chose de grand, vraiment, et de glorieux derrière. Continue. Mais c'est pas encore ma partie préférée. Ma partie préférée, c'est plutôt quand on parle des différents types d'étoiles. Et là, je sais pas si vous y connaissez un petit peu en science, on a toute une catégorie d'étoiles qui existent, enfin toute une série de catégories d'étoiles. Les classifications les plus simples vont les classer en fonction de la taille et de la température. Donc on peut avoir des géantes rouges, des naines rouges, on peut avoir des géantes bleues, des naines bleues, on peut avoir des étoiles moyennes, plutôt dans les lumières, voilà, orangées, jaunes, comme notre Soleil en fait. Et donc on pourrait parler très longtemps de tous les types d'étoiles. Et tu peux un peu continuer ? Merci. Et par rapport à toute cette diversité d'étoiles, je ne peux pas m'empêcher de voir toute la diversité qu'on retrouve aussi chez nous, en fait, à chaque fois. Un premier point, par exemple, c'est le fait qu'il y ait des étoiles jeunes et moins jeunes ensemble à chaque fois. Dans les nuages d'étoiles, dans les constellations, etc., on observe régulièrement, en fait, comme dit, on peut avoir des nuages d'étoiles où qui sont de véritables pouponnières, on peut avoir plein de petites étoiles bleues, donc les jeunes étoiles, en fait, et après, plus loin, on observera justement des étoiles rouges, qui en général sont des étoiles bien plus vieilles, et avec des tailles très variées. En fait, les étoiles bleues, actuellement, sont bleues justement parce qu'elles émettent beaucoup plus de chaleur. Et je me disais, mais en fait, c'est un peu comme nous aussi, les jeunes sont souvent assez fougueux, pleins d'énergie, etc. Et après, on a les géantes rouges, qui souvent sont dans des stades plus avancés, et qui, elles, vont être bien plus grandes, on va dire plus grandes, plus sages, mais bien plus grandes, et qui, du coup, vont quand même émettre moins de chaleur, en fait, avant d'arriver jusqu'à la fin de vie d'étoile, où là, il y aura encore d'autres stades, jusqu'à la supernova, etc. Et oui, j'ai juste mis un petit verset pour citer que oui, c'est quelque chose dans le plan de Dieu que d'avoir jeunes et vieux ensemble, en fait. Et ici, voilà. Alors, les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai, je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Et j'aime ce verset parmi tant d'autres, en fait. Parce que Dieu voit à chaque fois le corps dans son ensemble. Il n'a pas une préférence pour les plus âgés et les plus sages. Il n'a pas une préférence uniquement pour la jeunesse. Il voit vraiment chacun dans le corps. Voilà. Bien. À chacune sa spécialité. Et là, vraiment, c'est ma petite étoile préférée. Il faut savoir qu'il existe une très grande diversité d'étoiles. Et un type d'étoile qui me plaît particulièrement, ce sont les étoiles à neutrons. En fait, ce sont des étoiles très particulières, parce que, comme dit, ce sont en fait des géantes rouges qui se sont compressées, qui se sont effondrées sur elles-mêmes, et en fait, elles ont une énergie extrêmement compressée. Elles sont presque plus petites que la Terre, mais elles ont des masses solaires, enfin, elles ont un poids, en fait, qui dépasse de loin des milliers de fois celui du Soleil. Et donc, c'est extrêmement concentré en énergie, au point où la matière n'est plus normale, en fait, à l'intérieur de ces étoiles. Dans cette étoile, en fait, on les appelle une étoile à neutrons, justement, parce que, je ne sais pas si vous connaissez un peu en physique, mais normalement, la matière est constituée d'atomes. Et les atomes sont constitués de protons, électrons, des choses comme ça, en fait. Et en réalité, la gravité est tellement forte ici qu'elle va compresser les particules subatomiques, comme les protons, les électrons, etc., et obtenir une pâte neutre, qui sont des neutrons, justement. Donc c'est pour vous dire à quel point la gravité est extrême ici. Et par conséquent, à l'intérieur, en fait, on a une structure très particulière qui forme ce qu'on appelle des gnocchi, spaghettis, des gaufres. J'aime beaucoup cette étoile parce qu'elle est originale, en fait. Et comme dit, à l'intérieur, alors on peut pas observer directement l'intérieur d'une étoile, mais on peut voir, en fait, par des modèles mathématiques, l'intérieur. Et en fait, quand ils ont vu les structures, les scientifiques, ils se sont dit, ah, mais on dirait des gnocchi, ah, on dirait des gaufres, etc. Sûrement que c'était un peu avant midi. Oh, voilà. Et c'est pas encore l'aspect le plus fascinant, car je m'intéresse à ce qu'on appelle aussi des pulsars. Dans les étoiles à neutrons, on a une catégorie d'étoiles à neutrons qu'on appelle pulsars, et c'est celle qui est représentée en haut à droite. C'est des étoiles en fait qui vont se mettre à tourner à elles-mêmes, et elles vont émettre, en plus de la lumière normale d'une étoile, elles vont émettre en fait des jets d'énergie, des jets de lumière tout simplement, qui font qu'en fait elles sont comme un phare, littéralement. Donc de chaque côté, on a des émissions de lumière, elles tournent sur elles-mêmes assez vite, et ça fait littéralement comme un phare dans l'espace. Donc si vous regardez le ciel étoilé, vous voyez justement des clignotements qui vont être plus ou moins rapides en fonction de l'étoile. Chaque pulsar a une vitesse de rotation différente, et la grande particularité, c'est que, en plus d'agir comme des phares, elles sont extrêmement précises en fait. Elles sont, par exemple, si ça clignote une fois tous les 2 secondes et 14 millièmes de secondes, ça restera toujours comme ça pendant des décennies. Et ça, c'est assez impressionnant au point que les scientifiques se sont demandé si on ne pouvait pas les utiliser comme alternative à l'horloge atomique, qui actuellement sert de référence pour la mesure du temps dans le monde. Donc, moi, ça m'a beaucoup parlé, parce que dans les paroles que j'ai reçues, paroles de connaissance à titre personnel, au niveau de la prophétie, etc., ben, j'avais reçu ces paroles comme quoi, oui, tu vois les saisons, tu marques les temps, en tant que, ben, pour le côté ministère prophétique, en fait. Et quand j'ai vu ça au niveau des étoiles, je me suis dit, mais quelque part, je m'identifie un peu à ça. Ce côté très original, vous savez, avec les gaufres, les pâtes, tout ça. Ce côté, justement, très marqué dans le temps, ce côté comme un phare, ça me parlait beaucoup. Mais après, il ne s'agit pas que de parler de moi ici. Je voulais montrer cet exemple pour parler du fait qu'il y a toute une diversité d'étoiles, chacune avec leurs particularités, et que c'est aussi quelque chose que l'on retrouve chez nous, dans le corps de Christ en fait. Je suis convaincu que lorsque Dieu nous glorifiera pour nous emmener au ciel, etc., nous ne serons pas juste des clones de lumière, chacun identique, etc. On sera quelque part purifié, glorifié, mais chacun avec sa personnalité, chacun avec ses plans, ses particularités, ses dons, en fait, ce que Dieu aura mis en lui à chaque fois. On peut continuer ? Alors, un autre cas qui m'a pas mal parlé, c'est celui des naines brunes par rapport à la tiédeur. Donc toujours dans cette idée de, voilà, d'utiliser les étoiles pour faire vraiment une comparaison, simplement voir comment Dieu agit dans la vie, etc. On parle souvent des naines brunes comme étoiles ratées, et c'est probablement une catégorie d'étoiles que vous n'avez pas beaucoup entendu parler. Pourquoi ? Parce que c'est des étoiles qui sont extrêmement peu visibles, et en fait, on parle souvent d'étoiles ratées, parce que ce sont des étoiles qui n'ont pas accumulé suffisamment de gaz pour engendrer une véritable réaction nucléaire. Donc ça veut dire qu'elles ont commencé à briller, puis très rapidement la réaction s'est arrêtée à l'intérieur d'elles en fait, elles sont devenues très tièdes, et par conséquent elles passent en fait le reste de leur vie à juste se refroidir en émettant très peu de lumière. En général elles sont à peine plus grandes que des Jupiters, hein, pour ceux qui connaissent un peu les planètes du système solaire, donc elles ne sont pas très très grandes, et comme dit, par définition elles sont tièdes en fait, c'est des étoiles qui n'ont pas réussi à vraiment briller. Et j'ai pas pu m'empêcher de faire le comparatif justement avec tout ce qui est dit sur la tiédeur dans la Bible, ou notamment la parabole des vierges folles. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Si je fais le parallèle entre gaz et entre huile, justement, c'est aussi ce qu'on observait avec la naine brune, et justement je pourrais m'identifier à ça en me disant, mais voilà, si on ne se recherche pas auprès de Dieu, si on n'accumule pas entre guillemets assez d'huile, de manière métaphorique, c'est vrai que souvent on aura un petit coup de lumière qui va s'émettre, et après on va être très tiède pendant le reste de la vie, et c'est vraiment dommage, parce que du coup cette étoile ne remplit pas sa fonction d'étoile, presque personne la voit, et elles sont très difficiles à observer en fait. Donc voilà, je vais faire ce parallèle. Bien. Alors, la notion de distance et d'étoile. Les étoiles sont des objets très lointains, même si on peut en voir beaucoup en soi. Donc, quand vous voyez tout le ciel étoilé, il faut savoir que même l'étoile la plus proche du ciel pour nous, qui est en fait Alpha Centauri, en réalité c'est un système à 3 étoiles, mais même ce système-là, en voyageant à la vitesse de la lumière, il faudrait 4 ans pour l'atteindre. À la vitesse de la lumière. Donc même avec les technologies actuelles, en fait, il faudrait quelque chose comme 150 000 ans pour juste atteindre l'étoile à côté de nous, en fait, la plus proche littéralement. Quand on voit ça, en fait, on se rend compte, en fait, à quel point la plupart des étoiles sont distantes et à quel point c'est fou qu'on puisse percevoir leur lumière à des dizaines, des centaines, des milliers, des milliards d'années de lumière. C'est-à-dire que certaines étoiles sont si lointaines qu'il faudrait littéralement des milliards d'années à la vitesse de la lumière pour les atteindre. Et ça, c'est juste complètement fou. Et ça m'a fait justement penser à ce verset. Matthieu 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et l'éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et quand vous voyez le ciel étoilé, c'est un peu la même chose. Ça glorifie Dieu, en fait, de voir à quel point la lumière va loin, de voir toute cette multitude, de commencer à saisir la grandeur de la chose. C'est quelque chose qui glorifie Dieu, quelque part. Et enfin, un dernier aspect par rapport à cette étude sur les étoiles. Quand les étoiles se regroupent, pour moi, ce qui est aussi important, c'est la notion de corps. Et dans le corps de Christ, comme dit, chaque personne individuellement est belle quand on prend le temps de la regarder avec le regard de Dieu, en fait. Quand on commence à voir ce que Dieu a mis dans l'âme de chacun, il y a vraiment une très grande beauté. Mais cette beauté va être vraiment décuplée lorsqu'on s'unit, en fait, et qu'on forme véritablement le corps de Christ. Et j'ai envie de dire qu'encore une fois, on voit le parallèle avec les étoiles. Y compris avec les étoiles, lorsqu'elles se rassemblent, cela forme des galaxies. Et sous l'effet de la gravité, souvent elles vont rentrer en rotation et avoir différentes formes. De même pour les galaxies, on a une très grande diversité de galaxies qui existent, hein, comme celle du Sombrero, comme notre Voie lactée, etc. Et pour moi, c'est aussi encore une image de la beauté de Dieu lorsqu'on voit qu'on est unis en Christ. Bah de même, en regardant le ciel, on peut voir cette beauté lorsque, entre guillemets, les étoiles sont unies. Donc Jean 17, verset 21. « Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Tout ça pour dire que c'est encore un des éléments qui nous parle de la nature de Dieu. L'unité fait partie de la nature de Dieu. Merci. Bien. Une seconde partie de mon message. Une seconde partie de mon message, c'est par rapport à toutes les promesses de gloire de Dieu et par rapport aux étoiles et à la lumière. Alors, en réalité, on pourrait faire un message extrêmement long sur la symbolique de la lumière dans la Bible. Il y aurait énormément de choses à dire. Mais je voulais m'intéresser à quelques cas concrets, comme quoi c'est pas juste une métaphore biblique, en fait, mais qu'il y a vraiment des aspects concrets à la chose. Oui ? Bien. Quand Dieu nous promet de briller comme des étoiles, ma première question avait été, mais est-ce que c'est vrai, en fait? Est-ce que vraiment on va se mettre à briller littéralement, ou est-ce que ce n'était qu'une image? Et plusieurs cas dans la Bible nous montrent que oui, ça peut être quelque chose de concret en soi. Et je prends l'exemple justement dans Exode, Exode 34, verset 29. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce que il avait parlé avec l'Éternel. Donc il y avait de la gloire de l'Éternel entre guillemets sur lui, si on peut dire ça comme ça. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Donc encore une fois, ce n'est pas une petite lumière de lampe de poche, c'est quelque chose de vraiment grand et glorieux. Donc Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'ils avaient reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Merci. Un autre cas concret, de lumière concrète dans la Bible qui est liée justement à la gloire, c'est par rapport à la transfiguration dans le Nouveau Testament. Donc dans Matthieu 17, versets 1 à 3, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent, et ils s'entretenaient avec lui. Donc là, encore une fois, si je montre ça, c'est aussi parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien savoir pourquoi je persévère sur terre. Je me dis, Seigneur, tu nous promets de grandes récompenses dans les cieux, tu nous dis que ton royaume des cieux est quelque chose de merveilleux, etc. Mais je me demande à quoi ça ressemble concrètement, en fait. Et ce n'est qu'un petit aspect peut-être, mais le fait d'avoir des gens qui émettent de la lumière, ça nous parle un peu déjà de à quoi va ressembler le royaume des cieux en soi. Et vous allez me dire, mais quel intérêt à mettre de la lumière? Mais pour moi, il y a vraiment ce côté beau et glorieux et grand et généreux. Hein. C'est pas une petite lumière, tiens, la petite lampe de poche. C'est vraiment ce côté généreux de Dieu qu'on retrouve aussi là-dedans. On peut continuer. La semaine dernière, c'était Fabrice qui m'avait cité à certains moments. Et cette fois, c'est moi qui vais citer Fabrice en retour. Alors, je vous conseille vraiment le livre de Fabrice, Père de gloire, c'est ça. Parce que j'ai beaucoup aimé ce travail où Fabrice a répertorié justement les différents cas où la gloire de Dieu s'est manifestée de manière concrète, lors de temps de réveil notamment, dans l'ère moderne. Et pas que dans la Bible où il y a des centaines de milliers ou des milliers d'années, mais vraiment... Enfin, voilà, vraiment quelque chose dans l'ère moderne, en fait. Alors, la plupart du temps, c'était des témoignages sur la nuée et le feu, mais il y en a aussi certains qui parlent de lumière. Et ici, voilà, il y en a un ici par rapport à Benny Hinn. Donc, Benny Hinn assista un jour à une réunion avec Catherine Kuhlmann, c'est ça, et qui avait reçu du Seigneur le don de guérison. Celle-ci implora l'auditoire de ne pas attrister le Saint-Esprit. Donc, Benny Hinn est en train de dire, « Ensuite, elle pointa son long doigt vers moi et dit très clairement, « Il est plus réel que quoi que ce soit dans le monde. » Lorsqu'elle me regarda en prononçant ces paroles, quelque chose littéralement me saisit de l'intérieur. Je fus vraiment touché. Je criais et dis, « Il faut absolument que j'ai ça. » Alors que la réunion tirait à sa fin, je jetai un regard vers cette femme évangéliste et je vis comme une brume qui l'entourait et qui la recouvrait. Et j'ai d'abord pensé que mes yeux me jouaient peut-être un tour. Mais non, c'était vraiment ça, et son visage brillait comme une lumière à travers cette nuée. Je ne crois pas un seul instant que Dieu essayait de glorifier Mademoiselle Kuhlmann, mais je pense vraiment qu'il a utilisé cette réunion pour me révéler sa puissance. Et il y a de nombreux cas, en fait, dans l'ère moderne, de miracles et de révélations assez surnaturelles. C'est pas quelque chose qu'on observe tous les jours, mais pour moi, c'est important quand même de montrer que, aujourd'hui encore, c'est des manifestations qui peuvent exister. Et il y a beaucoup de promesses par rapport à la notion de lumière, notamment dans l'Apocalypse 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière, ni d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et encore au verset 16, je suis l'étoile brillante du matin. Donc, on pourrait citer encore de nombreuses choses et je ne vais pas tout aborder aujourd'hui. Mais voilà, simplement pour revenir encore à ce que je disais au départ, cette promesse dans Daniel, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Merci. En conclusion, et je pense qu'on va finir assez tôt du coup. Donc, ces promesses de lumière, de briller concrètement comme des étoiles, peuvent paraître surprenantes lorsqu'on se rend compte qu'elles ne sont pas que de simples métaphores poétiques. Mais quand on repense aux étoiles qu'on vient d'étudier, elles sont d'une très grande puissance, elles sont très grandes en taille, elles sont d'une très grande beauté, d'une diversité qui nous dépasse, et de loin. Et c'est ce que Dieu nous promet quelque part lorsqu'il nous parle de rentrer dans sa gloire. Il nous promet un renouvellement, donc voilà la glorification. Il nous promet une nouvelle vie, un nouveau corps d'une puissance, d'une grandeur, d'une taille, d'une beauté qui nous dépasse de loin, tout en préservant en plus la diversité de chacun. Il y a quelque chose vraiment de beau et de magnifique là-dessus. Donc voilà, à chaque fois qu'on regarde les étoiles, on peut y voir la nature de Dieu, lumineuse, mais aussi infinie, belle et généreuse. Et d'ailleurs, pour conclure, sachez même qu'au mois de décembre, alors ce ne sont pas vraiment des étoiles, mais on a quand même la plus grande pluie d'étoiles filantes qui a lieu au mois de décembre, et elle est moins connue que celle de août, parce qu'en fait, il y a souvent la météo qui va cacher les étoiles, mais si jamais on a de la chance d'avoir un beau ciel étoilé, et que vous n'êtes pas trop frileux aussi, n'hésitez pas à prendre un temps justement pour observer les étoiles et repenser aux quelques mots que je vous ai partagés.